A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mesdames et messieurs,
mobilisée.
Parce qu'on ne change pas la société sans la participation du peuple.
Grand nombre de députés en juin prochain.
Que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Bon, je ne vous explique plus le principe. Depuis la campagne présidentielle, j'ai pris l'habitude de me glisser discrètement aux réunions hebdomadaires du service politique de l'Express. La dernière fois, c'était juste après le second tour, nos journalistes parlaient recomposition politique avec beaucoup de points d'interrogation. Vous êtes nombreux à nous avoir dit ou écrit que cet épisode vous avait plu. Et je me suis dit qu'à 3 jours du premier tour des législatives cette fois, il méritait bien une petite actualisation. Les alliances sont désormais figées, mais il reste pas mal de questions et je suis sûr que ça leur inspire des idées d'articles pour l'Express. Il n'y a qu'une règle, vous le savez, ne pas faire de bruit pour ne pas les déranger. J'approche de la salle, allez on rentre.
Bon, c'est pas tout ça, mais il paraît qu'il y a des élections dimanche, le premier tour.
Aujourd'hui, c'est Éric Mandonnet, le chef du service politique, qui mène la réunion.
La question clé, c'est est-ce que Macron va avoir la majorité à l'Assemblée, la majorité absolue
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera plus difficile qu'en 2017.
Olivier Perroux, en charge de la gauche.
Parce qu'il y a une reconstruction politique qui est un peu plus mature qu'en 2017, notamment à gauche. Et je pense qu'on peut voir une espèce de percée de plusieurs candidats de la fameuse Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale. C'est la seule faux, je le dirais, hein, pendant la réunion.
Nupes.
Il y a des circonscriptions qui paraissent serrées. On a vu le score des circonscriptions des Français à l'étranger, où on est dans ce face-à-face que tu évoquais, Olivier, donc majorité présidentielle contre Nupes. Paul, est-ce que toi, tu sens que les choses vont être encore plus serrées ?
La logique institutionnelle voudrait que Macron bénéficie d'une majorité absolue, car avec le quinquennat, les élections législatives suivent l'élection présidentielle, et la logique voudrait qu'il l'ait sur un plan institutionnel.
Paul, c'est Paul Chollet. Lui, il suit la droite.
Sur un plan politique, ça s'y prête moins. Le quinquennat de Macron commence de manière assez douloureuse avec la nomination très contestée de Damien Abad au gouvernement, avec l'affaire du Stade de France. C'est un second mandat, faut pas l'oublier. Il paie aussi le prix de sa propre stratégie de campagne présidentielle. Il a tout fait pour anesthésier le débat électoral pendant 6 mois, pour obtenir une élection qui était plus une sorte de reconduction administrative par défaut. Et quelque part, c'était une stratégie gagnante sur un plan court-termiste. Mais là, il en paie le prix lors des législatives parce qu'il n'a aucun effet propulsif issu de sa réélection. Donc, rien ne dit aujourd'hui que Macron aura une majorité absolue et les mains libres avec un groupe à sa botte pour gérer les affaires de la France pendant 5 ans.
Mais je me rends pas compte, je vous interromps juste, mais Éric, toi qui vois tout le temps des ministres du gouvernement ou des pontes de la majorité...
Camille Vigogne-Lecoat, notre spécialiste de l'extrême droite.
Le JDD, là, dimanche dernier, titré sur la peur, les sueurs froides au gouvernement, on joue à se faire peur.
Ils ont longtemps joué à se faire peur, mais quand on joue trop à se faire peur, on finit par se faire peur. Et ce qui va être un test des dimanches, c'est les ministres. Est-ce qu'ils vont tous réussir à être élu. La règle a été fixée, rappelée. Un ministre qui est battu ne peut pas rester au gouvernement.
Ouais.
Vous avez listé les ministres en danger.
Damien Abad.
Damien Abad, c'est le nouveau ministre des Solidarités, un transfuge de la droite.
Alors Damien Abad, ça, Paul, tu peux nous en parler, parce qu'au départ, c'est une circonscription plutôt tranquille. Il y a eu deux difficultés.
Mais deux difficultés, c'est son affaire de mœurs.
Enfin, et même son affaire politique.
Et son affaire politique. Il y a un, les accusations de viol qui sont portées contre lui. Et deuxièmement,
et deux de trahison.
En tout cas, voilà, il est en difficulté, et c'est quelqu'un qui joue très gros à titre personnel, car il s'est mis son parti, Les Républicains, à dos, qui le considère comme le pire des traîtres, et il n'est pas encore adopté par la majorité présidentielle, par La République En Marche. Donc si demain il perd cette élection législative, sa vie politique rejoindra celle de Valls. Quoi.
Et Game pourtant, il a été élu à 70%,
ouais, il a, c'est pour ça 69%. Que je disais, au départ, il a une circonscription solide.
2007, oui, il est très ancré. Une terre de droite.
Une terre de droite, il est ancré dans ce territoire. S'il était resté chez Les Républicains, voilà. Il y avait tout à parier à ce qu'il gagne très tranquillement. Mm. Mais là, les cartes sont rebattues.
Il y a plusieurs ministres assez emblématiques dont on ne pensait pas au départ qui seraient en difficulté. Mais moi, je pense là spontanément à Méline Montchalin, un très gros rôle dans ce nouveau gouvernement.
Amélie de Montchalin, c'est la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Elle est en difficulté. Hein.
Elle est en difficulté. Donc, c'est dans la circonscription de l'Essonne, Massy, Verrières-le-Buisson, etc. Elle fait face à Jérôme Guedj, un ancien socialiste, un ancien élève de Mélenchon. Il est candidat pour la NUPES. Et finalement, pour avoir un peu suivi sa campagne, il est sur le terrain tout le temps. Tandis qu'Amélie de Montchalin, on la voit pas trop sur le terrain là-bas.
Elle mise tout sur son charisme.
Elle mise tout, en tout cas, sur son rôle ministériel. Et il y a quelque chose de formidable sur les tracts qui sont envoyés par Jérôme Guedj, c'est que il a fait un petit écriteau qui est assez visible. C'est de toute façon, vous allez, même si vous votez pour elle, c'est pas elle qui sera votre députée, puisque elle va rester ministre et elle va envoyer son suppléant. Pour elle, il y a un vrai sujet qui se joue. Elle ne peut plus jouer sur la vague Macron, là.
Et puis, une autre circonscription,
c'est celle de Clément Beaune.
Parce qu'on ne pensait pas que Clément Beaune serait en difficulté. On pensait qu'il avait bien travaillé le terrain, la circonscription, qu'il bénéficiait...
Une aura nationale, presque.
Aura nationale, politique. Mmh. Et là, les sondages qui valent ce qu'ils valent montrent que ça va être serré. Et...
C'est surtout que c'était un personnage clé sur la fin du premier quinquennat, Clément Beaune. Et puis, si ça fait pchit, ça va être non seulement un échec pour Clément Beaune, à titre personnel, mais ça va être aussi un échec pour Emmanuel Macron, qui va perdre un soldat assez bon dans son dispositif.
Côté majorité présidentielle, est-ce qu'on a fait le tour des frayeurs, des peurs que se font... Ah non, il y en a une. C'est cette histoire de la présidence de la commission des finances. Moi, je déjeunais au surlendemain du second tour avec Yaël Braun-Pivet, pour ne pas la citer.
À ce moment-là, c'est une députée macroniste très importante. Depuis, elle a été nommée ministre des Outre-mer.
On pouvait penser, 48 heures après la réélection de Macron, qu'elle faisait tourner les serviettes. Et en fait, pas du tout. Elle venait de découvrir le matin qu'il y avait un gros risque.
Oui, parce qu'il y a
un méchant insoumis prennent la tête de la commission des finances.
Ouais, c'est un des gros enjeux d'ailleurs pour la majorité, parce que c'est la présidence de la commission des finances. Jean-Luc Mélenchon, alors toi tu déjeunais avec Yann Braun-Pivet, moi je déjeunais quelques jours après avec Jean-Luc Mélenchon, qui en parlait beaucoup allègrement pendant son déjeuner, où il disait mais ça c'est un objectif clair. Peut-être d'ailleurs j'ai un peu soupçonné le fait qu'il se soit plus un objectif que le fait d'aller à Matignon.
C'est plus réaliste, en tout cas.
Je rappelle, la présidence de la commission des finances est toujours dédiée au principal groupe d'opposition,
non.
J'ai besoin d'un petit cours de droit de parlementaire.
Au départ, était Nicolas Sarkozy.
Voilà.
Puisque c'est Nicolas Sarkozy
qui a instauré cet usage,
qui veut renforcer le rôle de l'opposition au Parlement. Et donc, dans la modification constitutionnelle de 2008, il est juste dit, dans la modification constitutionnelle, que le règlement de chaque assemblée reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition ainsi qu'aux groupes minoritaires. Et ensuite, le règlement de l'assemblée consécutif à cette modification constitutionnelle indique, ça je l'ai relu récemment, ne peut être élu à la présidence de la commission des finances qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition.
D'accord.
Donc c'est tout ce qui est dit.
L'usage veut que la présidence de la commission des finances, qui est stratégique, soit confiée à un groupe d'opposition.
Voilà.
Le risque pour Emmanuel Macron, c'est que ça soit plus quelqu'un de droite, mais de la gauche, de la NUPES,
s'ils arrivent à avoir
cette présidence. Et donc ils ont peur qu'avec quelqu'un de gauche, ça soit moins facile de faire passer leur réforme.
Mais c'est pas seulement quelqu'un de gauche, parce que la commission des finances, c'est une machine, une des commissions les plus importantes de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. C'est elle qui vote le budget de l'État.
Mm-hmm. Il convoque les ministres. Il peut débarquer à Bercy, le président de la commission des finances.
Il a accès au rapport.
Tous les dossiers.
Ouais. On peut faire un papier un peu pour expliquer le rôle là-dessus, mais je propose aussi de faire un portrait, parce qu'il y a un nom qui circule chez Mélenchon. Lui, s'il arrive à obtenir la présidence de la commission des finances, il veut y nommer Aurélie Trouvé. Et c'est l'ancienne présidente d'ATTAC, l'association altermondialiste. Donc, imaginez un peu le stress du libéral Emmanuel Macron d'avoir une altermondialiste au sein de la présidence des finances.
Donc, si on comprend bien, Macron... Un, il veut la majorité absolue.
Oui.
Si ce n'est pas absolu, c'est absolument des problèmes. Deux, il veut que la présidence de la commission des finances revienne à quelqu'un du cercle de la raison, qu'il soit de droite, de gauche, mais pas à une tête brûlée. Mais ensuite, il y a quand même cette histoire de Mélenchon-Matignon.
Ah, je vais vous casser un secret, là. Mélenchon et Matignon, c'est un pur slogan, c'est de la com-pol. Il ne peut pas le dire ainsi, parce que c'est une campagne politique. Mais il a juste voulu créer de l'élan. Mais même lui-même, en son fort intérieur, si on fait un peu de psychologie et qu'on suit Mélenchon depuis un moment, on sait très bien qu'il n'y croit pas lui-même. Il
connaît... Mais reconnaissons que c'est un bon slogan.
Bah, c'est même un excellent slogan. Il fait de la politique, Mélenchon. Il a voulu un peu secouer le cocotier en disant « Mais attendez, c'est la cohabitation, ça a existé. Bah, moi, je vais inventer un nouveau truc, je veux la cohabitation dès le début du quinquennat. » D'ailleurs, dans le grand entretien qu'il a donné à l'Express, il le dit clairement, il dit « Je renverse la table du présidentialisme, j'introduis une dose massive de 6e République dans la 5e République. » S'il a un gros groupe... Ça continuera à mettre de la pression sur Emmanuel Macron sur la nécessité de réformer la Ve République sur ce calendrier électoral en France.
Et là, on a vu en fin de semaine dernière et en début de semaine la passe d'armes entre Macron et Mélenchon. C'est Macron qui a tiré le premier en disant dans son interview à la presse régionale « Aucun parti politique ne peut imposer un nom au président ». Il a raison, juridiquement.
Mais Mélenchon, même s'il n'est pas choisi par Emmanuel Macron, il a un peu... Donc, j'ai envie de dire, il a déjà gagné, au moins médiatiquement.
Il a imposé son récit pendant les quatre semaines.
Une raison simple aux gens d'aller voter.
Pendant quatre semaines, on n'a parlé que de lui. Il a donné des interviews partout. Il est encore en campagne. Il n'a pas arrêté depuis sa défaite du 10 avril. Et il a un peu, j'ai envie de dire, il a un peu récupéré la casquette d'opposant numéro un par la force des choses. Contrairement à d'autres, je pense à Marine Le Pen.
On a eu l'impression que Camille était en vacances.
Mais exactement, mais en fait, Camille était avec nous aujourd'hui pendant cette réunion.
C'est pas sympa. Non, mais t'as tout à fait raison. Et Marine Le Pen, elle n'a pas réussi à s'imposer. Déjà parce qu'elle a pris des vacances. Alors, il y a des gens qui ont des lendemains de cuite difficiles. Marine Le Pen, elle a souvent des lendemains d'élections difficiles. Elle a besoin de prendre quelques jours pour souffler. On la décrit très fatiguée. Elle a mal au dos. Elle dort pas beaucoup. Enfin, ce lendemain de campagne est difficile pour Marine Le Pen. Et quand elle est pas là, il se passe rien au parti. Donc, grosso modo, il ne s'est rien passé. Quand on regarde ses objectifs en termes de victoire aux législatives, elle a d'abord dit on veut juste avoir un groupe, c'est-à-dire 15 députés. Ensuite, elle a dit 60, ça serait pas mal. Et puis, dans la toute dernière ligne droite, là, on entend parler de 100, 150 députés. Bon, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est qu'ils sont incapables d'avancer des chiffres parce qu'elle sait que la campagne a été mauvaise, que ça va être difficile, que son électorat se mobilise très peu parce que son électorat populaire ne vote souvent que pour la présidentielle. Le mode de scrutin qui favorise les duels avec une abstention en plus qu'on prédit comme potentiellement très importante ne l'avantage pas.
Il n'y aura aucune triangulaire.
Bien sûr, et en plus, il y a un vrai enjeu de survie financière. Le RN, c'est un parti qui n'a plus d'argent, qui a énormément de dettes, et la dotation des partis politiques est calculée sur la base des résultats aux législatives.
C'est les élections législatives, je te complète, qui...
Chaque voix...
Qui donne chaque... c'est la survie des partis politiques pour 5 ans.
On a eu l'impression au début que la seule obsession de Le Pen, il y avait un homme à terre, c'était Zemmour, et c'était d'empêcher qu'il se relève.
Bien sûr, Eric, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'on a l'impression que finalement, sa campagne à elle s'est arrêtée au soir du premier tour. D'ailleurs, son dernier message de la campagne sur une boucle interne dédiée à ses cadres, c'était « Petite pensée à Eric Z qui nous a débarrassé des serpents que nous nourrissions en notre sein ». Je dis mémoire, mais c'était à peu près la teneur du dernier message de Marine Le Pen pendant sa campagne. Et elle est heureuse d'avoir, entre guillemets, terrassé Eric Zemmour. Alors, l'inconnu du côté de Reconquête, c'est de savoir si lui va réussir ou non à se faire élire dans la circonscription du Var, celle qui englobe Saint-Tropez, dans laquelle il est candidat.
Il a eu un sondage plutôt bon, enfin qui a surpris, qui montrait que sa victoire était possible.
Est-ce qu'il a envie d'être élu député ouais. Zemmour ?
Il préférerait conseiller général, mais...
Non, parce que là, il se retrouverait seul, non inscrit à l'Assemblée.
Je pense pas que le poste de député est forcément celui qui les fait rêver tout le temps. D'ailleurs, on le voit dans sa campagne, c'est super paradoxal. Il avait toujours eu beaucoup de mépris pour les gens qui parlaient du quotidien. Il ne voulait parler que de la nation et de l'identité. Et maintenant, il se retrouve à faire campagne sur les bretelles d'autoroute, les incendies dans le sud. Enfin, c'est ça, une campagne quand même des législatives. On est beaucoup interrogé sur la réalité locale. Donc, il y a déjà un paradoxe. Mais sur la question de l'envie, en fait, Éric Zemmour, il joue quand même en partie la survie de son mouvement politique. S'ils n'ont pas du tout d'élu à l'Assemblée nationale, ce qui peut être le cas, ça va quand même être très compliqué. D'où il va parler, selon quelle légitimité l'Assemblée nationale lui offrirait une tribune. Donc je pense que, oui, il a envie de gagner cette législative. Après, est-ce que la vie de parlementaire le fait rêver ? Je suis pas sûre que ça soit lui qu'on trouve le plus actif en commission.
Il pourra faire de grands voilà. discours, simplement, de temps en temps. Voilà. Et c'est compliqué quand on n'a même pas de groupe.
Bien sûr.
S'il est élu et s'il fait partie d'un groupe. Hein, on a le temps de parole des hors groupe.
Et juste, on est d'accord, quand tu disais Marine Le Pen 60, parce que c'est la même question pour chacun, l'intérêt d'avoir 60 députés, c'est qu'on peut déposer une motion de censure, c'est qu'on peut saisir 58, le Conseil constitutionnel. Ouais.
Comment est-ce qu'on peut convaincre des électeurs de dire « Venez voter pour moi, je vais pouvoir saisir le Conseil constitutionnel ». Enfin, c'est dire à quel point sa campagne a manqué de stratégie politique.
Alors, il y en a d'autres qui ont adopté une stratégie très différente. Tu t'es pas foulé, Paul, pendant cette campagne, hein ?
Non, mais en politique, nécessité fait loi, donc il y a pas de les républicains.
C'est pas les députés
sortis,
qui font la loi, c'est la nécessité.
Exactement. Les LR est sorti laminé de la présidentielle. Valérie Pécresse n'a même pas récolté 5% des suffrages. Donc aujourd'hui, c'est un parti qui peine à exister avec la force de Mélenchon et la force macronienne. Donc aujourd'hui, on a 104 députés sortants. 80 se représentent et aujourd'hui, ces députés, faute de mieux, ils misent sur leur ancrage territorial et ils espèrent que leur notoriété locale fera la différence dans la campagne. Car aujourd'hui, les Républicains n'ont pas de tête d'affiche nationale qui mène la campagne. Même en 2017, après le crash de Fillon, c'était le cas, puisque Baroin faisait la campagne. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de programme vraiment connu des Français de la droite pour les législatives.
On a assez peu vu ta candidate, Valérie Pécresse.
Non, mais elle devait récupérer ses sous, donc elle avait d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, le problème de la droite, c'est qu'elle n'a pas de message national à porter. La seule chose qu'on entend à droite, c'est de dire « Attention, il ne faut pas donner les pains pour un Macron ». Mais ça, c'est un lieu commun des législatives. Il n'y a aucune offre singulière politique.
Mais ce qui va être intéressant quand même dans l'Assemblée, telle qu'on la découvrira au lendemain du second tour, puisqu'on s'est intéressé à la recomposition, puis à la recomposition de la recomposition, c'est la recomposition de la recomposition de la recomposition. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une Assemblée nationale qui va inscrire un nouveau schéma politique où, par exemple, les socialistes, il faudra les voir avec la loupe, LR, il faudra les voir avec le microscope, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, qui est quand même le lieu où s'écrit la loi, on aura les principaux partis de gouvernement de l'histoire de la Ve République qui seront presque des groupuscules.
Sur les socialistes, ils ont un enjeu propre, c'est celui de survivre. Ils ont vécu deux élections présidentielles catastrophiques. Aujourd'hui, le sentiment, et pour en avoir discuté avec beaucoup de cadres socialistes, on croit soupçonner qu'ils essayent de survivre avec la NUPES, quitte à se trahir sur plein de sujets, l'Europe, etc. Mais que derrière et après le second tour, finalement, chacun va reprendre un peu son indépendance.
Là, tu es en train de nous dire que la NUPES, après le 19 juin, c'est fini.
Eh ben, je ne sais pas si on peut dire que c'est fini, peut-être pas sur des votes. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils vont pouvoir voter tous ensemble sur certains textes de loi. Mais que politiquement, sur les stratégies, chacun va reprendre son indépendance. En tout cas, c'est ce que souhaitent, sans le dire, les écologistes. Et c'est ce que souhaite, sans le dire aussi, le Parti Socialiste, qui va changer de nom très probablement, qui va un peu se réinventer après les élections législatives. Donc finalement, la NUPES, elle va exister avec parcimonie, par-ci, par-là, mais pas forcément comme un nouveau bloc parti politique sur le long terme. Et je dis ça pourquoi ? Parce que le prochain scrutin, les européennes, c'est en 2024, et on ne peut pas imaginer, ou alors le Parti Socialiste n'est plus le Parti Socialiste, et les Europe Écologie Les Verts ne sont plus ELV, on ne peut pas imaginer que pour une élection européenne, des pro-européens comme le PS et ELV s'allient avec des souverainistes comme la France Insoumise. Et j'en veux pour preuve que aujourd'hui, il y a certains au sein d'Europe Écologie et Les Verts qui préparent déjà les européennes.
Mais du coup, peut-être que tu as intérêt à préparer un papier pour le second tour des législatives. La NUPES a gagné, la NUPES est morte, toi.
Ben oui, on va le voir assez rapidement, je pense, des prises de position là-dessus. Et quelles seront les stratégies du PS et de ELV ? Une chose est sûre, c'est que chez les écologistes, comme au PS, comme chez les anti-NUPES du Parti Socialiste, on sait très bien qu'il y a un enjeu qui est 2027, et que pour les élections de 2027, c'est pas sûr que Jean-Luc Mélenchon soit candidat.
Bon, alors avant 2027, on va voir si dans dimanche prochain et le dimanche suivant, les électeurs ont l'élémentaire courtoisie de ne pas démentir par leur vote tout ce qu'on vient de dire.
C'est rare d'habitude.
On va se faire un petit point sur les sujets qu'on programme, d'accord ?
Bah moi, j'avais le portrait d'Aurélie Trouvé pour la Commission des Finances.
Moi, je serai à Hénin-Beaumont dimanche soir.
D'accord, les vacances continuent.
J'avais le choix entre Hénin-Beaumont et Saint-Tropez et j'ai choisi Hénin-Beaumont.
Bon, ils se répartissent le travail, je vais m'éclipser discrètement. D'ici 2027, promis, on reviendra écouter des réunions du service politique dès la fin des législatives, par exemple. Alors, pour ne pas rater cette prochaine réunion, ni les autres épisodes de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Podcast Addict, Spotify ou Amazon Music. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel, Ambre Rosala et Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.